J'essaie de dessiner ce que je vois. Devant moi. Ils n'ont pas de feuilles.
Un oiseau. Une grue.
Elle a dessiné des arbres et elle a gâché tout le monde dessiné des arbres.
Vue du large, une série de plateaux radio en public au J1 autour du travail des quartiers créatifs. Quartier créatif, c'est un dispositif de la capitale culturelle Marseille-Provence 2013, des résidences artistiques dans des quartiers en rénovation urbaine, pour une série de projets impliquant les habitants de ces quartiers dans le processus de création. Le mois dernier, on s'interrogeait sur le rapport au temps dans l'élaboration de ces projets, sur la durabilité de l'œuvre qui en résulte. Aujourd'hui, on va plutôt être dans l'espace. L'espace ville, la ville matière, la ville plastique, entre les mains de plasticiens. Et on va croiser les expériences issues de plusieurs projets. D'un tunnel à l'autre, Frédéric Claver, qui signe le tunnel Bénédit, à côté de la Friche la Belle de Mai, et Marie-Vonne Arnaud et Philippe Mouillon qui illuminent le tunnel national avec les vœux des habitants du quartier. Troisième projet, à Arles celui-ci, dans le quartier de Griffeuil, les Pas Perdus, y bâtissent un bâtiment sculpture qui décoiffe et qui s'appelle le Mastoc. Et enfin, à Salon, dans l'archipel des Canourgues, le cabanon vertical propose une série de 6 interventions, un parcours pour unifier un territoire. On espère que Olivier Bedu du cabanon vertical nous rejoigne, mais on a un petit peu peur que le changement d'horaire et le week-end pascal n'aient été fatal à sa présence parmi nous. On essaiera quand même de dire quelques mots de son projet. Et à l'occasion, on essaiera aussi, dans cette discussion, d'aborder le rapport à la commande. En effet, de nombreux projets interrogent des formes de participation dans la commande de chaque quartier créatif à sa modalité particulière, et on interrogera un petit peu comment ça se passe entre producteurs associés. Une discussion à laquelle nous associerons aussi Martine Laondès de la fondation Logirem. Merci à tous d'être présents sur ce plateau. Je vois la lumière au bout du tunnel. Non, ce n'est pas une citation de François Hollande, mais le commentaire que pourrait faire le passant qui passe sous les tunnels Bénédit ou National. 1000 signes pour l'un, ex voto pour l'autre. 2 mots pour décrire ces 2 œuvres underground qui viennent d'être dévoilées au public. Pour commencer, Marie-Vonne Arnaud, Philippe Mouillon, je le rappelle, vous proposez l'aménagement d'un tunnel, le tunnel national, qui a été inauguré pas plus tard qu'hier soir. Ça s'est bien passé, cette inauguration, Marie-Vonne ?
Oui, bonjour. Donc, je suis Marie-Vonne Arnaud. Mais oui, ça s'est très bien passé. Mais bon, je n'imagine pas que ça pouvait mal se passer d'une autre façon. Donc, vous voulez que je vous raconte ce moment-là ?
Oui, ce moment-là, et puis aussi nous raconter finalement de quoi il est question pour ce tunnel, un projet qui s'intitule Ex Voto. Peut-être raconter un peu de quoi il est question.
Donc ce tunnel qui est situé près du boulevard National est un espace que nous avions repéré depuis longtemps parce qu'il est très remarquable. Il fait nuit dans ce tunnel, évidemment. Et c'est un tunnel qui faisait très très peur aux passants. Dès qu'on parlait de cet espace, tout le monde en parlait en inquiétude pour la pollution, pour le bruit, pour l'inquiétude du noir, quoi, tout simplement. Et en fait, il est très marqué aussi puisque c'est un tunnel où pendant la guerre de 1900, la Deuxième Guerre mondiale, les gens se sont réfugiés à l'intérieur et ils ont été bombardés. Donc je pense qu'il y a une part irrationnelle qui ressurgit en permanence face à ce tunnel.
Il y aurait des fantômes dans ce tunnel ?
En tout cas, il reste quelque chose, je pense, ouais, qu'effectivement, ce n'est peut-être pas des fantômes, mais je crois assez qu'il y a des présences qui ne peuvent pas disparaître, qu'on ne peut pas oublier, en tout cas. Voilà, donc l'idée assez immédiatement qui m'est venue à l'idée, c'est de travailler à partir d'ex voto, puisqu'en fait on est à Marseille et qu'à Marseille il y a Notre-Dame de la Garde et que c'est le lieu où normalement les marins, les voyageurs allaient déposer des ex voto avant de partir ou au retour de leur voyage quand tout ça s'était bien passé. Donc mon idée a été d'essayer de transformer ce lieu qui fait revivre une peur, donc je pense un peu irrationnelle, mais quand même, d'essayer de leur faire raconter leur... d'essayer de conjurer le sort, finalement, de parler de leur peur en leur faisant raconter leurs vœux et leurs souhaits, et leurs rêves pour l'avenir, pour les jours tout proches ou des jours plus lointains.
Une collecte de vœux, donc, de la part des habitants de ce quartier, une collecte de vœux qui débouche sur une réalisation, des caissons lumineux qui sont disposés tout le long de ce tunnel et dans lequel sont justement exprimés les vœux de ces habitants. C'était une manière de les associer au processus de création de cette œuvre.
Oui, cette collecte de vœux, qui a été plus un glanage au hasard des rencontres, a vraiment été une manière d'apprivoiser le quartier et de se faire apprivoiser aussi, parce que Marseille est grande, c'est grande plutôt, et ça prend, faire un projet, ça prend du temps, il faut ce temps-là, et finalement... Ce choix de collecter des vœux est une manière de rencontrer les gens. C'est presque un prétexte aussi.
Comment s'est passée la rencontre, justement ? Je crois que vous n'êtes pas marseillais, peut-être grenoblois, si je ne me trompe pas.
Oui, je suis grenobloise.
Comment s'est passée la rencontre avec ces habitants ?
La rencontre s'est faite de différentes manières, d'une manière un peu volontariste, grâce aux têtes de l'art qui étaient médiateurs, enfin qui sont eux dans le quartier, et qui nous ont mis en contact avec des associations, des écoles, qui peuvent aller d'un foyer d'hébergement pour femmes en détresse, moi je ne sais pas comment l'appeler, au foyer pour jeunes travailleurs, également à la boutique de la Fondation Abbé Pierre, un lieu qui accueille les SDF, les gens sans papier, sans logement. Le matin, ils peuvent venir boire un café, se poser, prendre une douche. Enfin, donc, il y a eu différents réseaux comme ça. Et puis aussi, moi, j'aime beaucoup aller simplement marcher, boire un café, parler aux gens, essayer de leur raconter un début de projet, voir comment ils réagissent. Et j'aime vraiment ça aussi, quoi. Seulement le hasard des rencontres. Et il y a eu un autre grand moment qui était... On a fait une exposition au mois de juillet sur un terrain qui appartient à la Logie REM où va être construit de l'habitat social, accession à la propriété, une crèche. Donc ce terrain était libre à cette période-là, 8000 m² sur laquelle on a installé une exposition, une collection de collections. On invitait les habitants à nous prêter leur collection, à venir en parler. Et ça a été l'occasion d'un très grand atelier collecte de vœux.
Alors justement, à propos de la Logie REM, Martine Landès, vous représentez la fondation Logie REM, qui n'est pas exactement la Logie REM, mais une fondation qui est rattachée à cette entreprise, qui est un des principaux bailleurs sociaux à Marseille. Alors peut-être quelques mots justement sur ce terrain. Que va-t-il devenir après ce projet, Martine Landès ?
Alors, sur ce terrain, on a le projet de construire à environ 300 logements. 300 logements à la fois d'habitat social, de promotion privée et d'accession sociale et des services. Et nous, on s'est posé la question de comment on peut associer des résidents, enfin, ou deux futurs résidents, ou des voisins, des habitants de ce quartier, à la transformation de ce lieu, parce que construire 300 logements, c'est faire de la rénovation urbaine, et on n'avait pas envie de rester que dans le béton. Donc, comme on avait plusieurs expériences avec des rencontres d'artistes, avec ce que ça peut produire avec des résidents, avec ce que ça produit pour les artistes en termes d'inspiration par rapport au lieu, par rapport aux rencontres, et puis ce que ça éveille aussi pour les résidents en termes de découverte, de plaisir, on s'est dit, c'est la belle occasion avec Marseille-Provence 2013 de faire une association entre nous et une équipe artistique et puis des gens compétents en matière de culture. Et voilà, ça a donné... entre autres la collection des collections, puis le tunnel.
Que restera-t-il de cette collection de collectionneurs dans ces 300 logements ? Il y a peut-être quelque chose qui en fera trace encore ?
Alors la trace, elle va être plutôt au niveau de la thématique qui a été développée par les artistes, qui est donc les ex-voto, puisque dans la finalité du programme d'architecture qu'on va réaliser, on a envie de retrouver une œuvre qui est inspirée de cette dimension. Et ce qui est important, c'est que ce sera un fil qui aura démarré avec la collection, puis avec le tunnel qui est à proximité, et puis dans ce lieu où il y aura une œuvre qui ne sera pas comme ça plaquée, mais qui sera dans une
continuité.
On va
en reparler dans un instant de la place de l'œuvre, finalement, justement, dans ces aménagements urbains. D'un tunnel à l'autre, je le disais, un autre tunnel qui a été inauguré hier, celui qui était proposé par Frédéric Claver et qui s'intitule « Le tunnel aux mille signes ». On devine aisément pourquoi, mais Frédéric, peut-être quelques mots pour nous expliquer ce qu'est ce tunnel aux mille signes et quels sont ces mille signes qui y sont disposés.
Oui, bonjour. Le tunnel des mille signes, eh bien, c'est le tunnel Bénédicte Jobin qui est dont la voûte un peu plus basse que celle du tunnel national mais qui passe aussi sous les voies de chemin de fer constellé de panneaux métalliques. Alors pas tout à fait au nombre de 1000, mais enfin il y en a 7000, c'était pour signifier qu'il y en aurait beaucoup, quoi. Voilà, c'était l'idée du projet. C'est 450 panneaux métalliques peints, avec chacun porte une image, un signe, un symbole. Et ils viennent donc
des panneaux qui pourraient être des panneaux de signalisation urbaine, mais dont le motif là est détourné par vous pour une sémiologie de la ville. Alors je rappelle juste au passage que ce projet, c'est un des projets de la friche Label de Mai, avec aussi le Jardin des Rails de David Onatsky et puis Unframed, un projet du photographe Globetrotter JR qu'on aura le plaisir d'accueillir dans un de ses prochains magazines Vue du Large. Peut-être quelques mots sur la façon dont vous avez abordé ces espaces, l'un comme l'autre, Tunnel Bénédicte ou Tunnel National. Et Marie-Vonne Arnaud le disait à l'instant, deux endroits où, au fond, on hésitait à passer, tellement ces endroits étaient plutôt glauques, plutôt sinistres, plutôt tristes. Est-ce que, de votre part, il y avait une volonté d'aller là où personne ne va, c'est-à-dire de vous approprier un bout de ville qui est vraiment un bout de délaissé, Frédéric Claver?
Oui, moi, j'avais un petit peu anticipé la chose, parce que surtout j'habite Marseille, j'habite pas très loin de du tunnel Bénédicte, je l'emprunte quasiment tous les jours. Donc il faisait partie dans mes déambulations. C'était devenu une espèce de support, oui, c'est vrai, sur lequel j'ai commencé à imaginer, à projeter des choses. Et là, le hasard a fait qu'il y a eu un appel d'offres par la suite. J'avais parlé de mon intention déjà il y a un peu plus de 2 ans à Véronique Collard-Beauville, qui la directrice de Sextant à la Friche. Et elle m'a dit, je crois qu'il y aura quelque chose, un projet pour 2013. Donc l'occasion était là de formuler un peu ce projet et de lui donner, forme. Voilà.
Alors, peut-être Marie-Vonne Arnaud ou Philippe Mouillon, la même question à peu près. Qu'est-ce qui finalement vous a décidé à vous approprier cet espace urbain qui n'est pas un espace formidable, même si le tunnel national avait d'ailleurs peut-être une monumentalité un peu plus grande, une présence dans la ville un peu plus grande que celui de la rue Bénédicte. Malgré tout, c'est un endroit où on hésitait à passer. Est-ce que c'était de votre part une volonté de requalifier cet espace, de lui redonner une vie, une âme, une fantaisie, une qualité?
Je commence, mais non, c'est pas le requalifier. En fait, moi, ce tunnel, je l'ai trouvé très beau la première fois où je l'ai vu. Donc, effectivement, après, n'étant pas de Marseille, j'ai compris que pour les habitants, et je les comprends de plus en plus, qu'ils le traversaient quotidiennement, jour et nuit, à pied, parce que c'est difficile en bus de circuler de part et d'autre sans passer à pied par ce lieu. J'ai compris qu'il leur faisait peur. Mais pour ma part, c'est vraiment, j'ai été séduite par ce tunnel. Je peux dire, c'est vraiment un très très bel espace dans la ville.
Philippe Mouillon, vous étiez séduit aussi par ce tunnel?
tout tunnel est une rupture dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que tout le reste de la ville, ce sont des rues et des places, et là, quand on traverse un tunnel, à la fois il fait nuit en plein jour, ce qui est quand même une expérience qui instruit une césure dans la vie, et puis symboliquement, un tunnel, c'est une traversée du souterrain. Ça ressemble à un souterrain, même si en réalité, on est à la hauteur du territoire, du sol naturel. Donc cette traversée du souterrain, c'est aussi un moment où l'on est dans le nocturne, dans l'inconscient, dans la mémoire, dans les rêves, dans l'octonien, dans l'archaïque, etc. Donc en fait, symboliquement, c'est d'abord très puissant, et ça mobilise chez chaque individu qui passe énormément, même de vision nocturne, hein, les rêves peuvent être des cauchemars, mais en tout cas c'est un fort accélérateur symbolique pour les gens qui passent là. En ce sens, les tunnels et le tunnel national particulièrement, puisque Marie-Vonne rappelait aussi cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, sont des lieux puissants. Ce ne sont surtout pas des non-lieux, mais des lieux extraordinairement habités. Vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce qu'il y a des fantômes ? Oui, c'est habité. C'est un lieu où les présences sont extrêmement fortes. Et donc, c'est d'une certaine façon, nous nous sommes contentés d'exaucer des potentialités déjà présentes.
Dans les deux cas, pour chacun de ces tunnels, il est et même plus largement pour l'ensemble des quartiers créatifs, il est évidemment question d'associer les habitants à la composition de l'œuvre. Et en l'occurrence, là, pour ces deux tunnels, est-ce qu'il ne s'agit pas, au fond, d'associer les habitants à taguer ce lieu ? Taguer, je m'explique, d'habitude, les tagueurs passent et puis laissent une signature avec un peu de peinture pour dire « je suis là, j'existe, je suis passé par là ». Et est-ce que, finalement, le fait d'y disposer des vœux ou d'y disposer des signes, ce n'est pas un peu une manière d'associer les habitants à affirmer leur présence, à réaffirmer leur présence dans ces espaces ? Marie-Vonne Arnaud ?
En tout cas, non, moi, ça n'a pas du tout été mon idée, ni j'ai jamais imaginé ça. La seule chose que j'avais envie d'amener aux personnes qui doivent le traverser tous les jours, c'est d'en changer la perception. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir peur, vu qu'effectivement, c'est un moment où on est un peu en apnée, j'ai envie de dire, ben, je vais en profiter pour faire un vœu, je vais en profiter pour rêver, penser à quelqu'un que j'aime, ou me raconter, réciter des vers, chanter, enfin faire quelque chose, mais que c'est vraiment une frontière, effectivement, entre deux zones urbaines assez différentes, et que ce passage devienne un vrai passage avec quelque chose de magique, quoi.
Frédéric Clavert, est-ce que la disposition de ces signes, ce n'était pas un peu pour les habitants de ce quartier d'affirmer leur présence dans ce lieu, dans ce tunnel, à travers ces signes ?
Non, pas... Enfin, pas vraiment, pas complètement, parce que au départ, l'essentiel du projet, c'est vraiment une déambulation dans le monde de l'image. C'est un projet dont j'assume le caractère aussi très distrayant, enfin de provoquer aussi une distraction pendant le temps de passage de la traversée du tunnel, comme une espèce de rébus, j'allais dire à ciel ouvert, mais enfin c'est un peu ça, un rébus au-dessus de la tête, mais un rébus qu'on en finit plus de résoudre. Voilà, c'était ça. Après, la dimension du tag, j'ai, et ça c'est encore un peu compliqué et polémique, mais j'ai essayé à travers certains éléments, certains panneaux qui doivent rester vierges, d'intégrer justement cette dimension de traces, de tags, de commentaires à l'intérieur du projet.
Certains de ces panneaux sont plus ou moins vides et donc invitent peut-être à y inscrire des traces de la part des passants, de la part des visiteurs.
Oui, alors ça, pour le moment, ça fonctionne pas. Pour tout dire, on a dû...
Pour ceux qui sont disposés tout en haut et au niveau du plafond, c'est un peu le comprendre.
Non, à la limite, les panneaux, disons que les panneaux les plus bas, on a été obligé de les retirer parce qu'ils ont été... Le problème n'était pas qu'ils soient tagués, d'ailleurs, au contraire, mais ont été tout de suite vandalisés très, très rapidement. Mais bon, c'est aussi plus un problème technique. Voilà.
Comment vous l'avez perçu, ça, cette vandalisation d'emblée, comme une forme d'irrespect à l'égard de votre travail ?
Non, c'est toujours embêtant. Puis c'est évidemment pas très... pas forcément agréable, mais c'est plutôt... je regrette de ne pas avoir peut-être plus étudier la chose techniquement de façon à ce qu'elle soit, soit possible sans qu'elle puisse être altérée à ce point. Quoi, voilà.
Alors Martine Lahondès, on est bien loin avec ces deux projets qu'on vient d'évoquer là. On est bien loin de la classique figure de la sculpture posée au milieu du carrefour ou de la cour d'immeuble. Alors il ne s'agit pas du tout d'amener de l'art académique dans les cités avec ces propositions, mais au contraire de révéler la culture des habitants de ces cités. C'est aussi dans cette démarche que vous vous situez avec la Fondation Logirem.
Nous, ce qui nous fait un peu courir dans ce sujet-là, c'est donc on est une fondation d'entreprise, une entreprise qui est une entreprise d'habitat social, et donc on cherchait comment inviter des résidents à une découverte culturelle, mais pas simplement en les invitant à des expos ou des choses comme ça, mais en les invitant à participer, alors pas à la création, mais en étant les inspirateurs ou retrouver pour eux aussi beaucoup de fierté dans ces rencontres avec ces artistes et puis aussi dans l'œuvre qui sera réalisée. Donc il y a comme une manière d'appartenir à ce qui est en train de se créer, et dans toutes les expériences que l'on mène aujourd'hui, aussi bien avec des artistes en résidence que là dans ce quartier de rénovation, de renouvellement urbain, l'idée est bien que voilà, il y a une progression, une ouverture, et puis que quand on passe ou quand on, là on passe dans, sous le tunnel, et c'est clair qu'il y a des résidents qui vont se retrouver là, qui se disent mais c'est peut-être pas forcément moi, mais j'y ai participé et c'est nouveau, quoi.
Eh bien, on se retrouve dans un instant pour évoquer un autre projet, celui-ci dans la bonne ville d'Arles, dans le quartier plus exactement de Griffeuil. Mais en attendant quelques secondes de son, ça s'appelle Ma maison travaille plus que moi et c'est Urbain des Bois.
L'allergie, moi aussi. Le bruit des machines, la stime de l'usine, les rouages de la politesse, l'horloge dans l'horloge. Ma maison, ma maison, ma maison, ma l'effort, le travail, l'allergie, moi aussi je peux. L'hiver, je peux moins.
Vous écoutez Vue du Large, un plateau radio en public enregistré au J1 à propos du travail des quartiers créatifs. On s'interrogeait sur la nature des propositions artistiques disposées dans l'espace urbain. Et on en était à se dire qu'au fond, il fallait faire avec et non plus pour les habitants. Guy-André Lagès, tu représentes le collectif des Pas Perdus. Faire avec, il faut faire avec. Et ce n'est pas toujours simple, tous les jours. Peut-être deux mots pour décrire ce que vous êtes en train de bâtir avec les habitants de Griffeuil.
Bonjour. En fait, en arrivant sur Griffeuil, donc c'était le projet, c'était d'y aller travailler sur ce quartier-là. Ça nous a été proposé, et c'est un travail de, à la fois de contexte et de circonstances. C'est-à-dire que, voyant comment étaient disposés les bâtiments dans ce lieu, ils font 120 mètres de long, 4 étages, des balcons minimum des années 70, comme on connaît tous ces bâtiments-là à cette époque-là, rien dépasse. Et on avait l'intuition, mais comme partout dans le monde d'ailleurs, qu'il y a toujours des choses qui se passent dans les immeubles. Des baptêmes, des assiettes jetées aux conjoints, des plaisirs, des danses, des repas formidables, peut-être des meurtres, on ne sait jamais. Je veux dire, toutes ces choses-là existent, mais ça ne se voit pas. Et notre propos, c'est de dire comment on peut voir tout ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Comment on peut manifester tous ces esthétiques que les gens, avec lesquelles les gens vivent, que ce soit les esthétiques des supermarchés, que ce soit peu importe, je veux dire, mais il y a une quantité d'esthétiques phénoménale partout dans le monde, de toute manière. Tout ce qu'on a sur nous a été dessiné par quelqu'un. Donc on est en permanence dans... quelqu'un nous a dessiné, plus ou moins. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'entamer, c'est notre habitude, parce qu'on aime beaucoup cette relation de travailler avec des personnes qui viennent à un moment donné à cette idée de la co-création, deviennent auteurs, co-auteurs d'une œuvre en commun. Donc, et on sollicite et on cherche cette relation-là avec les gens, c'est-à-dire où la relation devient forme à un moment donné. Voilà. Et donc, on a mis en place depuis un an et demi un travail lent, doucement, où, au fur et à mesure, on fait partie des meubles dans ce quartier qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, l'idée de vivre sur place, on a un appartement, donc on y va très souvent, 15 jours. Maintenant, c'est 15 jours tous les mois, parce qu'on ouvre le 31 mai, donc c'est dans 2 mois. Et de finalement aller acheter du pain chez la boulangère, etc. Et donc, du coup, à un moment donné, commencer à faire partie de cet ordinaire de tous les jours. Et c'est à partir de cet ordinaire-là, et donc d'enlever la charge qu'on aurait comme artiste qui vient intervenir et faire, c'est à un moment donné de dire, si on fait ensemble quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, d'aller dans un sort de processus de travail qui amène les gens à travers notre manière de faire, c'est-à-dire d'apprécier l'idiotie, le ridicule, tout ce qui est nos décalités et de jouir de ces décalités ensemble avec d'autres.
Le ridicule, l'idiotie, mais aussi l'enchantement, puisque vos projets sont en général des projets d'enchantement, de réenchantement de la ville pour apporter de la fantaisie dans un quartier qui en manquerait. Alors je crois que vous appelez volontiers cette démarche celle de l'artiste facilitateur. Peut-être quelques mots là-dessus, sur le fait de transformer les problèmes quotidiens d'une population en manifestation de pure poésie. Artiste facilitateur, Guy-André Lagesse ?
Alors, je ne sais pas, je ne poserai pas les choses de cette manière exactement. C'est-à-dire que, en tant que personne œuvrant dans le monde de la créativité, tous les jours, ce qui m'intéresse, c'est ce que d'autres qui ne le sont pas peuvent apporter. C'est-à-dire, et donc, nous, on ne vient pas apporter quelque chose. On vient à cette puissance de la relation qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui adviennent, qui est de l'inconnu, et de partager avec des gens cet inconnu-là. Donc, réellement, d'y aller, d'avoir peut-être un premier constat de quelque chose, mais de ne pas savoir ce qui va se faire. D'y aller vraiment dans les anecdotes, par exemple, de tous les jours, dans les observations qu'on a, d'être comme un peu des éponges. Nous, un peu des éponges, les artistes, on est 3 à travailler sur ce projet-là, avec une équipe de constructeurs, etc. Mais de plonger dans les va-et-vient des gens, de ce qu'ils font. Et alors, facilitateur, c'est oui, bien sûr, c'est-à-dire, c'est comment on vient à la créativité, mais comme nécessité fondamentale dans la vie. C'est-à-dire de pas... Mais la distraction fait partie de ça. Hein, je veux dire, c'est juste pour... C'est-à-dire que toutes ces choses-là, tous ces éléments de la vie sont... dynamique, c'est comment on chope, comment on prend ces choses-là et ensemble, comment on aborde l'inconnu et d'y aller dans un domaine où la forme, on ne l'entrevoit pas. On entrevoit le sens de ce qui est en train de se passer et les formes viennent dans cet ajustement-là.
Mais les formes viennent petit à petit, on ne l'entrevoit peut-être pas au départ, mais elles viennent au fur et à mesure justement de la communication et de la concertation avec ses habitants. Est-ce que les formes-là du projet que vous allez montrer dans 2 mois à peine commence à être vraiment bien dessiné?
Ah oui, là, on est très en forme, oui. non, oui, c'est, bien sûr. C'est, là, on est pas loin de pouvoir ouvrir et accueillir les gens dans un espace qui est, on appelle ça le mastoc, hommage évidemment à la Camargue.
À la Camargue parce que c'est les masses, c'est ça.
Bien sûr, et le mastoc parce que c'est Arles. Je veux dire, c'est le patrimoine est très, très, très lourd. Je veux dire, elle est une présence phénoménale sur place. Il y a beaucoup de pierres, tout ça. Et donc voilà, donc on est en train de travailler avec cette idée d'un bâtiment qui se retourne comme un gant et dont la puissance de ce retournement répartit partout sur un terrain des grosses pierres d'une tonne et qui constitue les murs de cet appartement et qui repartit avec des fragments de ce qu'il y avait dedans.
Travailler avec l'histoire d'un quartier, en l'occurrence à Griffeuil, l'histoire d'un quartier antique dont on extrayait autrefois la pierre servant à bâtir l'art antique, d'où sans doute cet intérêt particulier pour la pierre dans ce projet, mais aussi un quartier qui est devenu au XIXe siècle un quartier ouvrier et dont l'évolution sociologique amène aujourd'hui à une réalité double, on pourrait dire, à la fois un quartier pavillonnaire et puis un quartier de logements sociaux. Est-ce que votre projet, c'était aussi une idée de redonner une unité à un quartier dont les clivages sont très présents ?
Alors nous, on se trouve en fait au croisement de deux quartiers, celle donc pavillonnaire et celle donc logements sociaux, qui sont vraiment fabriqués totalement de manière différente, un de totalement empirique, c'est-à-dire on voit bien comment les ruelles sont fabriquées, il y a une place, donc je vais essayer de coincer une maison entre cet endroit-là, et de l'autre côté, un schéma des années 60, 50, qui est là pour mettre en place des ouvriers venus de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y a quelque chose comme ça très, très en place, et effectivement, nous, on a choisi un lieu qui était entre les deux, c'est-à-dire que c'est sur un terrain devant une école qui devait devenir la cour de l'école, mais qui n'est jamais devenue cour d'école. Donc elle est à un croisement, à un carrefour, et du coup, effectivement, nous, notre intérêt, c'était de rencontrer à la fois des gens du quartier Moulirès, donc de ce quartier plus empirique, ouvrier de la SNCF, et des nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants. De Griffeuil, du quartier des logements sociaux, et donc du coup de ne pas sectariser les choses en disant, pas se ghettoiser en se disant ben on fait des choses qu'avec Griffeuil ou qu'avec Moulirès ou que, mais d'inviter aussi du centre-ville d'Arles, des gens qui viennent travailler avec nous, qui viennent du centre-ville. Aujourd'hui on travaille avec une cinquantaine de personnes, mais de manière dans la co-construction d'œuvres, à l'ouvrage en tous les cas, avec une cinquantaine de personnes qui viennent de partout. Et donc du coup, pas rendre les choses rigides, justement, dans des cadres.
Peut-être justement une question à faire circuler autour de cette table, cette question des clivages sociaux qui apparaissent la plupart du temps dans les quartiers en rénovation urbaine sur lesquels vous avez été amené à travailler. Est-ce que vous estimez que c'est la mission de l'artiste que de contribuer à résoudre ou à résorber ces clivages sociaux? Frédéric Claver, Marie-Vonne Arnaud, Frédéric Claver.
La mission des artistes. Non, je ne pense pas qu'on... Enfin, ça,
ce serait un vaste programme.
Oui, non, je pense, j'aurais même pas, ça n'a même pas traversé l'esprit d'imaginer que j'allais résoudre des questions sociales ou même ne serait-ce que les problèmes par exemple d'agressivité qu'il peut y avoir dans la rue notamment, bon, on sait que les tunnels sont propices à ce genre d'atmosphère un peu anxiogène, ça tétanise un peu ça cristallise un peu toutes les peurs urbaines dans cet espace, mais non, j'avais vraiment pas la prétention de résoudre ça. Comme je disais, j'ai essayé d'amener de la distraction, et je pense qu'avant tout ce qu'il faut en tant qu'artiste, il faut essayer d'être au plus près, au plus le plus juste dans le geste artistique qu'on compose. Voilà, je crois que c'est peut-être ce qu'on doit aux habitants, enfin aux gens qui vont être confrontés à ce travail-là, et pas prétendre à leur faire passer des vessies pour des lanternes, quoi, en gros.
Marie-Vonne Arnaud, Philippe Mouillon, peut-être votre position sur ce sujet, les artistes sont-ils là pour pacifier les quartiers en pleine rénovation.
Non, moi, je ne me sens pas du tout là comme pompier. Enfin, je trouve que ça serait aussi très prétentieux et je ne saurais pas faire. Hein, ce n'est pas du tout mon rôle. Par contre, je pense qu'on peut amener de la considération pour les habitants, le fait de les regarder, de parler avec eux. Finalement, quand on parle d'espace délaissé, j'aime pas du tout parce que je ne pense pas qu'ils se sentent délaissés. Ils habitent là, ils sont aussi heureux d'habiter là, même si parfois c'est difficile. Donc moi, j'ai juste envie de leur révéler ou de changer, là que je dis, la traversée du tunnel. J'ai envie d'amener de la tendresse, de la poésie, c'est tout. Je pense pas pouvoir faire mieux.
Martine Landès, sur cette question et pour conclure sur cette question, est-ce qu'il vous semble, vous, du point de vue de la Fondation Logirem, que les artistes que vous invitez à intervenir dans des cités sont aussi là quelque part pour apporter une forme de paix sociale dans ces quartiers ?
Non, de la paix sociale, non, puis j'aime pas trop ce mot d'ailleurs. Je pense plutôt que c'est de l'épanouissement, de la curiosité, une découverte, une fierté. Et plutôt du plaisir, et ça c'est vraiment important. Après, je pense qu'on est loin de la paix sociale, quel que soit le sens qu'on le prend. Et puis je pense que surtout ce qui est important, c'est de pas être trop éphémère dans ce type de sujet, c'est-à-dire de s'installer dans la durée. Quand on invite des artistes en résidence, ben ça doit pas être un one shot, parce que il y a une manière d'avoir de se respecter, de se rencontrer, il y a un chemin à faire et il faut pas que ça dure que le temps d'une œuvre. Alors si ça peut durer plusieurs fois, plusieurs années, c'est important pour que ça marque les uns les autres et puis que à cette occasion, on ait un autre regard sur ces quartiers. Pour nous, c'est très important, c'est-à-dire que qu'il se passe ce type de choses avec des artistes en résidence dans des quartiers où on n'a pas imaginé qu'il pouvait se passer ça, pour nous c'est fondamental.
Eh bien, on continue cette discussion dans quelques instants, le temps d'écouter un second petit moment musical dans le cours de cette émission Vue du Large. On est toujours dans une thématique urbaine puisqu'on écoute maintenant Maxwell et ça s'appelle Urban Theme. We'll be right back. Vue du large, une émission enregistrée depuis le J1. Vous écoutez bien Radio Grenouille et on s'intéresse au travail des quartiers créatifs. Alors Olivier Bedu du Cabanon Vertical n'a toujours pas pointé le bout de son nez. C'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé discuter avec lui, notamment de la question de la commande publique, puisque le projet qu'il présente dans le quartier des Canourgues à Salon de Provence était au départ un projet qui s'inscrivait dans le programme des nouveaux commanditaires de la Fondation de France, puis ensuite labellisé programme quartier créatif dans le cadre de la capitale culturelle. Mais ça n'empêche pas qu'on passe peut-être quelques instants ensemble à s'interroger sur cette question de la production, justement, de vos différents projets, des projets qui sont souvent co-construits avec des partenaires multiples, MP13, et puis souvent d'autres bailleurs sociaux associés activement parfois, ou peut-être moins activement pour d'autres. Enfin, bref, un petit tour de table pour savoir comment ça s'est passé pour les uns et pour les autres, du point de vue de la production de vos projets. Est-ce que ça a été un montage simple? Est-ce que ça a été un montage complexe? Est-ce que finalement vous aviez un interlocuteur ou plusieurs? Et comment est-ce que vous avez vécu cette situation de coproduction de ces projets, Marie-Yvonne Arnaud?
Wow, c'est une question difficile pour moi. Je vais passer la parole à Philippe.
Ah, c'est comme ça que tu fais d'habitude quand les questions sont difficiles. Alors, Philippe Mouillon.
Sur la commande, non, dans le cas de figure Marseille 2013, le JIREM, c'était extrêmement simple puisque le JIREM avait déjà contacté Marseille 2013. Les deux souhaitaient coproduire une intervention artistique et que l'on avait été retenu par ces deux entités. Donc, on n'a eu aucune difficulté. Ça a été extrêmement simple dans la construction du programme et dans la réalisation.
Et avec une présence active de la Logirem pour le coup, et avec une présence active de la Logirem.
Oui, on s'est rencontrés très régulièrement, on a échangé, y compris nos désaccords, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue, et heureusement, et donc cet échange de points de vue est tout à fait constructif. Sur la question de la commande, je trouve ça très intéressant parce qu'il faut savoir inventer des commandes lâches. Vous savez, c'est un peu comme Bach qui faisait les variations Goldberg. Il faut se dire, j'ai une vague trame et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est souvent ce que les commanditaires ne savent pas faire. En fait, il ne faut pas commander grand-chose. Il faut commander à des gens d'être là et de vivre et de laisser monter des émotions. Le cadre doit être très lâche pour être efficace. Et d'autre part, je suis chaque jour un peu plus surpris qu'il y ait si peu d'importance donnée au symbolique par les hommes politiques, c'est-à-dire les gens qui sont en mesure de passer commande, hein, qu'ils soient maire de ville, président de région, etc. On vit une époque d'assèchement de la commande et dans le champ des arts plastiques, puisque nous sommes tous des plasticiens, ce qui est intéressant, c'est que en parallèle à cet assèchement de ce que l'on appelait autrefois la commande publique, il y a une omniprésence du collectionneur privé, hein, des manias, des hommes d'affaires qui achètent des œuvres d'art dans le monde entier, etc. Donc il y a ces deux mouvements qui sont très significatifs de notre époque et qui sont très peu interrogés.
Guy-André Lagesse, comment s'est passée la phase de production du projet que tu développes, ce projet Mastoc à Griffeuil, et peut-être quels étaient les partenaires qui étaient en jeu pour vous?
Oui, nous, c'est relativement complexe. Quand je dis complexe, ça veut dire c'est une multi-partenariat. Il y a à la fois un bailleur social qui s'appelle le SEMPA, il y a l'aglo du pays Camargue, je ne sais plus le reste, Montagnette, excusez-moi, la ville d'Arles et 2013, MP13. Donc évidemment, chacun a des objectifs, que ce soit politique, que ce soit pour de la rénovation, donc c'est très complexe.
Des objectifs convergents ou divergents en l'occurrence pour vous?
Ah non, chacun a son objectif qui n'est pas forcément convergent. Je veux dire, mais évidemment dans la négociation et dans les prises de... En écoutant ce que disait Philippe tout à l'heure, en écoutant les autres, le point de vue des autres, les choses glissent, c'est-à-dire entre les différents partenaires. Et après, il y a nos objectifs à nous. C'est-à-dire que si on fait ça, ce n'est pas pour faire la paix sociale, évidemment, on a bien compris. Je veux dire, on est là dans un rapport de dynamique qui est fondamentalement nécessaire à nous dans notre propre œuvre, dans notre ouvrage ou dans notre... voilà. Par contre, confronté à ces différents points de vue qui sont évidemment politiques, qui sont... ça croise beaucoup souvent de sous-entendus ou de choses qui ne peuvent pas être dites fortement, mais qui sont là, et il faut qu'on écoute. Il faut qu'on écoute et qu'on le traduise pour que nous-mêmes puissions sortir dans cette situation-là. Mais fur et à mesure que ça avance, évidemment, l'habitude de se rencontrer fait qu'à un moment donné, les choses se règlent, on comprend les objectifs des uns et des autres et on compose avec, on l'entend. Et pour nous, quelque chose qui est très important, c'est que ça, évidemment, c'est des dynamiques qui, des fois, se mettent en convergence, et des fois, il peut y avoir une dynamique d'un coup, parce qu'il y a un problème politique dans le monde ou un problème politique dans la région qui va faire que quelqu'un va réagir de manière très fermée sur une situation. Et après, cette chose se opère de nouveau, et on repart, on règle, etc. Donc, c'est vraiment un va-et-vient incessant. Incessant.
Frédéric Clavert, va-et-vient à la Friche aussi, convergence ou divergence ?
Je dois dire qu'au niveau des conditions de production, j'ai été plutôt gâté. Enfin, j'ai passé dans un vrai confort, parce que j'ai travailler pour l'essentiel avec des amis artistes. J'ai travaillé au sein de la Friche et avec le soutien réel de l'ensemble des acteurs de la Friche. Donc j'étais vraiment dans des bonnes conditions. Il y a eu des complexités, évidemment, des questions, des fois au niveau du montage, il y avait toujours des choses à résoudre. Mais ce qui a fait, je crois, ce qui m'a facilité les choses quant à la communication du projet, à cette, justement, la dimension participative, c'est que pour utiliser un anglicisme, c'était un work in progress. C'est-à-dire, l'atelier dans lequel je produisais les fameux panneaux était très souvent ouvert. On a accueilli énormément de public, alors que ce soit les partenaires, les commanditaires, hein, c'est-à-dire la Friche, Tunnel Prado Carénage, qui était un des le mécène principal de ce projet, mais aussi le public, au sens très très large, a eu l'occasion. Il y a eu plusieurs rencontres qui ont été faites où on pouvait commencer à imaginer, à voir à quoi ça allait ressembler. Et c'est monté progressivement on était plus sur la maquette. Là, on voyait vraiment ce que ça allait être. Et ça, c'était dimension importante.
Martine Landès, en deux mots, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, mais la fondation Logirem, qui est appuyée sur le groupe Logirem, important bailleur social, je le rappelle, fondation Logirem que vous représentez ici sur ce plateau, vos actions, par priorité, est-ce qu'elles ciblent plutôt les habitants des cités de la Logirem, ou bien est-ce qu'elles s'adressent à tous ? Est-ce qu'elles dépassent cette dimension d'être... uniquement des actions à destination des habitants d'une cité gérée par la Logirem.
Alors nous, on est comme on est une fondation d'entreprise, on s'adresse majoritairement aux résidents de l'entreprise, mais bien évidemment, quand on intervient sur un quartier, on voit plus large. Et pour revenir sur la commande dont vous parlez, nous, on a vraiment un esprit urbain, c'est-à-dire des œuvres dans le milieu urbain, même à l'intérieur d'une résidence, c'est aussi un lieu urbain, bien évidemment. Et on s'est retrouvés complètement en adéquation avec la préoccupation de Marseille-Provence 2013, qui voulait faire une année capitale culturelle pour tout le monde et que tout le monde puisse y participer, et ça a fait vraiment écho avec nous.
Quelques mots pour conclure ce plateau sur l'actualité des quartiers créatifs. Les tunnels Bénédi et National sont inaugurés depuis hier. Donc je vous invite très volontiers à aller regarder le très beau travail qui a été accompli par Laboratoire pour le tunnel national et par Frédéric Clavert pour le tunnel Bénédicte. Je rappelle aussi que le 5 juillet, il y aura l'inauguration du quartier créatif des Canourgues à Salon. Le 6 avril, à Griffeuil, une farandole au mastoc. C'est bien ça, Guy André, avant l'inauguration véritablement... Ah non, j'entends Dorine Julien qui me dit que c'est le 31 mai. Ah bon, ben c'est pas le 30, c'est pas le 6 avril, donc c'est le 31 mai, autant pour moi. Et puisque les pas perdus avaient la parole, ben je leur donnerai volontiers cette fois-ci pour une actualité qui est beaucoup moins drôle, puisque c'est la suite du feuilleton, pourrait-on dire, du comptoir Toussaint-Victorine. Guy-André Lagesse, on vous déloge encore ?
Encore, oui, c'est-à-dire qu'on est face à une situation dans un quartier qui se trouve, qui s'appelle Saint-Mauron, qui est quand même un quartier relativement paupérisé. On est dans une ancienne usine d'allumettes et encore une fois, on a été menacé d'expulsion, mais parce qu'on l'a provoqué. C'est-à-dire qu'on a provoqué une situation puisque des travaux d'urgence nécessaires à l'utilisation de ce lieu était absolument nécessaire depuis 5 ans et que ces travaux ne venaient pas et dont on a sollicité la ville à plusieurs reprises pour qu'elle, à travers des lettres recommandées, les lettres d'huissier, etc. Et depuis, jamais rien n'a été fait sur le lieu. Donc on a décidé collectivement avec d'autres résidents de ne plus payer les loyers, de les réserver en attendant d'avoir une confrontation avec la ville, ce qui est arrivé.
Et donc, je crois que vous avez rencontré Monsieur Herman hier, qui semblait être. Je crois que vous avez rencontré Monsieur Herman hier, qui semblait plutôt positif à votre égard. Vous avez bon espoir.
Oui, Monsieur Herman me disait qu'il connaissait pas bien le dossier, mais on est en ce moment en train de rencontrer des élus à la fois de la région, du département, de la ville, des techniciens, etc. Les choses sont en train de en tous les cas, ça circule. Les choses circulent, donc on a besoin de soutien encore pour que la réalité de ces travaux se fasse. On a 1300 mètres carrés de studios, d'ateliers, et on peut recevoir que 19 personnes aujourd'hui. Donc c'est très cher le loyer.
Merci Guy-André Lagesse, et puis vraiment bonne chance pour le comptoir. Merci à tous, Marie-Vonne Arnaud, Philippe Mouillon, Guy-André Lagesse, Martine Laondès et Frédéric Clavert d'avoir participé à cette émission qui était réalisée par Sébastien Gély. Prochain rendez-vous de Vue du Large, il sera enregistré le 12 mai, toujours au J1. Et cette fois-ci, il portera sur la question des représentations avec entre autres pour invité JR. Merci à tous, au mois prochain.
J'essaie de dessiner ce que je vois. Je vois moi.
Ils
ont
pas de. Elle a dessiné des arbres et elle a gâché tout le monde.